Oui, bonjour, Loïc Desfossés. Je suis éleveur berger à La Nobre dans le Cantal et je réagis à votre émission concernant le retour du loup et notamment à certains propos d'un de vos invités, là, Monsieur Jouantin, qui prenait notamment en exemple la coexistence, puisque la cohabitation c'est une utopie morte et enterrée depuis de nombreuses années, du loup dans des pays voisins tels que l'Espagne et l'Italie. Il faut savoir que le loup ibérique, aujourd'hui, il est tellement braconné qu'il a du mal à se développer en dehors de la Cantabrie et des Asturies, qu'il est braconné à tour de bras. Et qu'en Italie, c'est pareil, notamment avec piège empoisonné et appât au bout d'hameçon à requin, à tel point que les Italiens, cette année, c'est la première fois qu'ils mettent en place une équipe cynophile pour détecter ces pièges-là. Donc il faut arrêter de dire des bêtises. Merci, au revoir.
Oui, bonjour Samy, du massif du Canigou, là, dans les Pyrénées-Orientales. Je suis pâtre, donc je travaille avec des bovins sur un territoire de 1500 hectares. Voilà, donc il y a une centaine de bêtes qui pâturent de 700 mètres d'altitude jusqu'à quasiment le sommet donc, du Canigou. On est un peu plus bas, on est vers 2004. Donc c'est des troupeaux qui se dispersent, qui se séparent, qui se rallient, etc. Et par moment, je me retrouve avec 3 à 4 vaches. Par moment, il y en a 20, 30. Et une mise en place de protection avec un chien, c'est tout simplement impossible. Impossible, voilà. C'était juste pour témoigner de ça. Et malgré des clôtures, malgré déjà un travail qui est difficile en lui-même, une rémunération qui n'est pas à la hauteur de ce que je fais. Merci de vos émissions. Salut.
Anne de l'Ardèche, je vous appelle juste pour vous dire par rapport au loup que la cohabitation se passe très bien dans des endroits comme les Abruzzes en Italie où les bergers vivent avec le loup depuis très longtemps et n'utilisent pas des chiens, des patous, mais utilisent des ânes. Ce qui est beaucoup plus écologique parce que par définition, l'âne ne mange pas de viande. Donc ça réduit aussi les coûts de gardiennage. Donc non seulement ils ont des vrais pasteurs, des vrais bergers qui font un travail de surveillance, mais qui s'aident avec les ânes pâturent avec les brebis et les agneaux. Et du coup, ça a un effet réel, il y a beaucoup moins d'attaques de loups. Au revoir et bonne suite à La Terre au Carré.
Bonjour La Terre au Carré, c'est Laurent Duvard. Moi j'avais une question qui m'interpelle, qu'est-ce qu'une espèce protégée et comment peut-on avoir le droit de tuer une espèce protégée? Voilà, soit une espèce est protégée et on ne la tue pas, on la protège, soit elle ne l'est plus et on peut continuer à l'exterminer. Merci beaucoup, bonne journée à tous.
Oui, rebonjour, c'est encore Samy là, du massif du Canigou, le pâtre. Voilà, en fait, j'ai réfléchi davantage là et je vous tenais juste à vous signaler deux trucs. C'est qu'en fait, ce métier, personne ne veut le faire. Le métier que je fais pour 1300 euros net par mois, personne ne veut le faire. Personne ne veut porter toute sa nourriture sur 700-800 mètres de dénivelé. Personne ne veut ne pas avoir des lecs. Personne ne veut ne pas avoir d'eau potable. Et en plus, si vous rajoutez des loups, en fait, plus personne du tout ne voudra faire ça et on va finir simplement par flinguer la montagne. Alors après, il ne restera plus qu'à construire des stations de ski avec les diurnes, nocturnes, du loup, etc. À bon entendeur, bon courage, salut.
Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous. Vous avez été très nombreux à réagir sur ce dossier consacré au loup hier dans l'émission. Merci pour votre message, Samy. Et je voudrais justement vous dire que La Terre au Carré va passer une semaine dans les Pyrénées du 31 janvier au 4 février et que nous allons consacrer une émission au métier de berger, en particulier, on le verra, dans la vallée d'Ossau. En attendant donc de se retrouver dans les Pyrénées, vous pouvez nous laisser vos messages sur ce répondeur en appelant le 01 56 40 45 45. Nous sommes en 1856 dans une grotte de la vallée de Neander près de Düsseldorf en Allemagne. C'est là qu'ont été découverts les restes d'un homme fossile qui sera considéré après moult débats comme le représentant d'une espèce humaine disparue. Il sera baptisé Néandertal et les femmes et hommes de Néandertal ont vécu en Europe pendant 300 000 ans. Ils ont disparu il y a environ 30 000 ans, définitivement remplacés par notre espèce Homo sapiens. En 2010, on s'en souvient, le séquençage quasi complet du génome néandertalien obtenu par l'Institut Max Planck à Leipzig a bouleversé les connaissances en montrant que le génome des hommes actuels d'Europe et d'Asie était composé de 1 à 4% de gènes d'origine néandertalien. Nos deux espèces se sont donc croisées, longtemps jugées inférieures et bestiales. L'homme de Néandertal est reconnu aujourd'hui comme le représentant d'une humanité à part entière. Et pourtant, Néandertal reste encore une énigme aujourd'hui et fait l'objet de beaucoup de discussions nourries entre scientifiques. Et c'est l'occasion de lui consacrer cette Terre au Carré avec deux chercheurs qui l'ont étudié de près et qui vont nous en dire plus. Avec nous en studio, Jean-Jacques Hublin, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir, vous êtes paléoanthropologue, titulaire de la chaire de paléoanthropologie au Collège de France. Vous avez dirigé pendant de nombreuses années le département d'évolution humaine à Max Planck à Leipzig justement. Et demain, à 18h, vous allez prononcer votre leçon inaugurale intitulée « Homo sapiens, une espèce invasive au Collège de France ». On va en discuter également avec vous. Ludovic Slimak, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Vous êtes en duplex des studios de France Bleu Béarn Bigorre à Pau. Vous êtes chercheur au CNRS, spécialiste des sociétés néandertaliennes et donc vous publiez ce livre « Néandertal nu » aux éditions Odile Jacob. C'est une enquête archéologique en forme de récit de voyage et on va donc en parler avec vous. Et les messages, bien sûr, toutes les questions des auditrices et des auditeurs, la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'appli France Inter avec vos notes vocales. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Avec les néonicotinoïdes. Nicotinoïdes, ils sont de retour dans l'actualité.
Voilà pour le sommaire de l'émission, réalisé par Valérie Ayestaraï, préparé par Anna Massardier avec Arnaud Caillet à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Donc quand même, c'est quelque chose. Hein. C'est ce fameux crâne original. Hein. C'est donc la première calotte crânienne qui a donné le nom à Néandertal, à l'homme de Néandertal, puisque c'est de la vallée de Néander, c'est cette calotte-là qui a fait en sorte que Néandertal est devenu fameux et que Néandertal a été en quelque sorte le premier homme fossile reconnu.
Voilà, la voix d'Yves Coppens en 2018 sur France 5. Qui était vraiment Néandertal? On en parle avec vous, donc Ludovic Slimak et Jean-Jacques Hublin. Ludovic Slimak, donc, pourquoi d'ailleurs ce titre Néandertal nu? Tiens, c'est une question que je me posais. Pourquoi vous l'avez choisi comme ça?
Eh bien, parce qu'en fait, Néandertal, avant d'être un ensemble d'ossements qu'on a retrouvé à partir du 19e siècle et un tas de silex, c'est une construction, et c'est une construction intellectuelle, c'est une construction de nos regards. Et aujourd'hui, Néandertal, je dirais, Néandertal est mal fringué. Et il est mal fringué de ce que nous lui avons mis sur le dos, c'est une sorte d'épouvantail. Et donc, dans ce livre-là, dans Néandertal nu, ben, je le mets à nu, et je propose un regard qui est celui qu'on peut avoir après 30 ans, passé 3-4 mois par an dans des grottes, dans ces espaces de vie, et où j'ai essayé de traquer ce que j'appelle la créature, où je la mets à nu dans ce livre et j'en propose un certain regard.
Ouais, et vous dites, en conclusion, il faut libérer Néandertal de son triste rôle de mime de notre propre humanité. Jean-Jacques Hublin, vous avez l'impression qu'on essaye trop souvent justement de plaquer nos représentations sur celles de Néandertal? Vous partagez ce sentiment avec Ludovic Slimak ou pas?
Oui, tout à fait. Bon, c'est une partie du livre de Ludovic Slimak que j'ai beaucoup apprécié. Il faut bien se rendre compte que l'évolution humaine, c'est pas un sujet neutre. Ça nous dit quelque chose sur notre nature.
Et sur notre époque, donc.
Hein. Voilà. Et donc, on a assez facilement tendance à se moquer des archéologues ou des paléanthropologues du début du XXe siècle. Justement, ceux qui produisaient cette caricature de Néandertal, en oubliant que notre époque a aussi ses lubies, son idéologie, ses valeurs, et voilà, donc on les projette sur le passé, et cela d'autant plus que il manque des données, des informations pour, dans le fond, tester ces projections. Et là, c'est vrai que depuis, je dirais au moins une vingtaine d'années, sur Néandertal, on s'en est donné à cœur joie avec la fameuse réhabilitation dont on parle tout le temps. Hein. Mais je pense qu'on va avoir l'occasion d'en discuter plus à fond.
Ludovic Slimak, vous pensez qu'on est passé d'un excès à l'autre, finalement, de l'image de Néandertal, la grosse brute épaisse, à celle d'un homme qui nous ressemble beaucoup trop aujourd'hui? Il faut trouver un juste milieu alors?
En fait, on a voulu le rendre humain, et ce faisant, c'est-à-dire que notre définition de l'humain, c'est nous-mêmes. Et pour qu'il soit humain, on l'a littéralement transformé en nous. Il y a certainement une très très bonne expo qu'on a eue au Musée de l'Homme qui s'est terminée en 2019, dans laquelle on pouvait voir une poupée de cire qui était une néandertalienne et qui était littéralement transformée, habillée à la mode occidentale actuelle. Et ce faisant, on se quelque part inconsciemment finalement, on se dit qu'on va élever Néandertal à nous-mêmes, alors qu'en fait, on le contraint à ce que nous sommes. Et ça devrait nous interpeller et nous choquer, parce que ce mode de représentation-là était exactement le mode de représentation qu'on a depuis le 19e siècle, où on a voulu, par exemple, pour les Indiens des Plaines, on disait « kill the Indian and save the man », c'est-à-dire tuer l'Indien et sauver l'homme. Et donc, pour ce faire, on allait chercher des Indiens, on leur coupait les cheveux, on les mettait en costard-cravate, et là, on disait, mais regardez, ils sont exactement comme nous, donc ce sont des hommes pleins et entiers. Et aujourd'hui, quand on transforme Néandertal en nous-mêmes, inconsciemment, on se dit, on fait quelque chose de bien, peut-être, même au sein de la communauté scientifique, mais en réalité, ça nous empêche d'essayer d'explorer ce qu'il fut vraiment. Car à moins d'être créationniste, ces populations qui sont séparées de nous d'un demi-million d'années, qui ont évolué dans des environnements extrêmement divergents de ceux qui étaient ceux des environnements très tempérés, tropicaux, d'Homo sapiens, en Afrique, ont dû développer leur propre manière d'être au monde. Et donc, on a un regard qui, voulant kill the Neanderthal, save the man, finalement, oui, nous empêche de voir ce qui se passe vraiment. Et aujourd'hui, c'est encore un vrai mystère. Qui est Neanderthal?
Pardon de vous interrompre tous, mais vous êtes que des hommes à parler là à l'antenne, à part moi. Vous parlez donc d'hommes de Neanderthal, vous parlez de costume-cravate, Mathieu, vous venez parler de grosses brutes épaisses. Ludovic Slimek, vous avez parlé d'une néandertalienne. Pour resituer, est-ce que l'homme de Neanderthal est toujours, du coup, projeté en tant qu'homme, ou est-ce que c'est encore une généralité, alors qu'on parle d'hommes et de femmes? C'est important. Est-ce qu'on en sait plus sur les hommes que les femmes de Néandertal, ou est-ce qu'il y a une différence?
Je pense qu'on en sait tout autant, ou aussi peu. Mais quand on dit homme, on veut dire humain, évidemment. Si ça vous plaît, on peut dire les
non,
humains.
Non, c'est parce que vous avez tendance à parler, là, même Ludovic Slimek parlait costume, cravate, etc. Donc c'est juste pour comprendre.
Non, mais Ludovic faisait référence à des images qui ont été produites, en particulier, il y a un célèbre livre de Carlton Kuhn où il y a cette illustration d'un Néandertal avec un chapeau mou dont on dit voilà, s'il était dans le métro, on ne le connaîtrait pas. Ouais. Cette fameuse exposition au Musée de l'Homme, ce qui terminait l'exposition, c'était pas un homme, c'était bien une jeune femme qui était néandertalienne, qui était déguisée en parisienne. Je sais plus si elle vendait des tickets ou des souvenirs à la sortie de de l'exposition, mais voilà.
Mais Ludovic Slimek, pour poursuivre ce que dit Camille, heureusement, il y a quand même de plus en plus de femmes aujourd'hui dans vos métiers, hein, de paléoanthropologues, d'archéologues, qui donnent aussi une nouvelle vision de Néandertal, parce que pendant des décennies, il y a que des mecs qui en ont parlé, hein.
Oui, c'est vrai. Et en même temps, les interrogations qu'on a hommes-femmes, c'est aussi les interrogations de notre temps. Et donc, on fait encore d'autres projections. Bien sûr, quand on dit l'homme de Néandertal, c'est pas parce qu'il y avait que des hommes. Ça nous donnerait une bonne explication sur la disparition de l'humanité s'il y avait eu que des hommes de Néandertal et pas de femmes. Mais bien sûr, c'est un terme générique. Et effectivement, dans cette exposition du Musée de l'Homme, c'était une néandertalienne qu'ils avaient appelée Kinga. Donc, la représentation, de toute façon, les représentations affectent les deux genres, masculin et féminin, et aussi bien l'homme que la femme de Néandertal sont prisonniers de regard et sont dans ces projections mais quand on s'interroge aussi en disant quel était le rôle de la femme de Néandertal, bien sûr c'est une interrogation, mais pour nous en archéologie, en fait, on va pas avoir les éléments. Déjà que c'est très dur de comprendre l'humanité en tant que tout, en tant que société, et après les questions de genre sont très difficiles, même si par exemple par la génétique on peut avoir des éléments sur les structures familiales, par exemple, où on peut voir qu'il y a des éléments qu'on peut voir se dessiner. Mais la question homme-femme, au niveau de la compréhension de cette humanité, pour l'instant, pour nous, ne nous apporte pas spécifiquement de sens, effectivement.
Oui, si je peux ajouter juste un mot très bref. Pour ce qui est de l'évolution de la profession, elle est très largement féminisée aujourd'hui. Moi, dans mon équipe, j'ai une large majorité de femmes qui parlent de Néandertal et des autres, d'ailleurs.
Allez, qui était Néandertal? Son visage et que sait-on à son sujet? C'est le dossier de l'émission.
Suis la flèche, dis-moi ce que tu vois. Je crois que les gardiens changent de voix. Suis la flèche, dis-moi si t'aperçois les les chasseurs d'illusions sur les toits. Dans le ciel, comme un ouragan, l'air prend la couleur d'un voile sanglant. En sommeil, depuis 10 000 ans, on entend gronder d'anciens volcans. Dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman, heureux dans l'instant. Dis-moi, suis la flèche, dis-moi si tu sens la cruelle odeur des innocents. Suis la flèche, dis-moi si t'entends les sœurs fatales et leur boniment. Dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman, heureux dans l'instant. Suis la flèche, dis-moi ce que tu vois. Je crois que les gardiens changent de croix. Suis la flèche, dis-moi si t'aperçois là-bas au loin les jongleurs sans loi. Dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman, heureux dans l'instant.
La fin du roman, Hubert Félix Stéphen.
La Terre au carré sur France Inter.
Cet homme de Néandertal a laissé lui aussi des traces dans le Périgord. Récemment, des fouilles effectuées au Régourdou, dont l'exploitation n'est d'ailleurs pas terminée, ont permis de mettre à jour une série d'ossements.
Et qu'est-ce qu'on a découvert de particulier ici ?
Justement, ici, on a découvert une sépulture d'homme de Néandertal qui contenait justement, avec le corps du défunt, des vivres et des armes. Tout ceci était enfoui dans un tas de pierres et tout autour, on a trouvé d'autres tas de pierres qui contenaient des offrandes d'ossements d'animaux et surtout des ossements d'ours.
L'homme de Néandertal était déjà un homme puisque, en dehors des problèmes de se nourrir, de se loger, il avait des préoccupations rituelles, dirons-nous.
Oui, il avait des préoccupations même religieuses.
Religieuses.
Il avait aussi le souci d'enterrer ses morts, de les mettre à l'abri et de leur permettre d'aller au-delà de la mort, de survivre.
Voilà, c'est une vision de Néandertal, elle date de 1963, archive donc dans la grotte du Régourdou, c'est dans le Périgord, tout près de Lascaux, dans l'émission Visa pour l'avenir, pour en parler avec Ludovic Slimak qui publie Néandertal, Nuche, Odile Jacob et Jean-Jacques Hublin. Ludovic Slimak, entre 63 et aujourd'hui, j'imagine qu'on a fait beaucoup de alors progrès, ça c'est tout à fait relatif, mais en tout cas les connaissances ont avancé. Vous connaissez cette grotte et où est-ce que vous allez, vous, qui êtes un homme de terrain, pour enquêter sur cette créature néandertalienne ?
Alors, j'ai dirigé des missions, même au-delà des espaces occupés par les populations néandertaliennes, de l'équateur au cercle polaire. Et je dirais qu'aujourd'hui, le cœur de mes recherches se concentre sur la vallée du Rhône, qui est un grand axe de circulation, qui est vraiment une artère à l'échelle de l'Europe et qui est le deuxième fleuve de Méditerranée après le Nil. Et cette position-là a une importance très, très... tout à fait centrale par rapport aux migrations et des grandes faunes et des populations. Donc je travaille en particulier en ce moment sur la grotte Mandrin, qui est un site ça fait 30 ans qu'on y travaille, mais qui est un site d'exception. Et c'est pour ça qu'on y a traîné depuis 30 ans, qu'on y traînera encore, je pense, pendant 30 ans, et où on est en train d'essayer de dessiner ce qu'un espace qui avait été scientifiquement largement abandonné, qui était cette vallée du Rhône, peut nous offrir comme éclairage sur ces populations qu'on comprend encore si mal. Mais après, Néandertal a occupé une grande partie de l'Eurasie et a su s'adapter à peu près tous les environnements.
Alors cette grotte Mandrin, on en parlera, mais elle est particulièrement intéressante parce qu'elle pourrait justement être une mémoire de la rencontre entre Néandertal et Homo sapiens. C'est ce que vous expliquez justement dans votre livre. Jean-Jacques Hublin, on disait 300 000 ans d'occupation donc de l'Europe par Néandertal. Donc c'est-à-dire que cette espèce a eu le temps de voyager. Elle est allée jusqu'où en Europe alors? Parce que je crois que c'est un point de divergence entre vous, ça.
On va éviter la divergence, justement.
C'est intéressant d'en parler, parce que Ludovic Slimak, il parle de l'Arctique. J'ai entendu l'Arctique tout à l'heure.
Oui, je pense qu'il n'y a pas de divergence. Ouais. C'est-à-dire que sur l'Arctique, le chapitre où je parle des espaces néandertales créatures polaires finit sur un point d'interrogation. Et aujourd'hui, je serais tout à fait dans l'incapacité de dire si Néandertal a occupé ces espaces. Par contre, c'est vrai que l'émission que j'ai dirigée sur des sites qui étaient relativement récent, vers 28 000 ans, on voyait effectivement des industries qui sont moustériennes, mais qui ne nous disent pas s'il s'agit effectivement de Néandertal ou Sapiens.
Alors Jean-Jacques Hublin, sur l'étendue de la présence de Néandertal...
Néandertal, c'est essentiellement une histoire dans la moitié occidentale de l'Eurasie, on va dire ça comme ça, entre l'Asie centrale et l'Europe occidentale. Maintenant, au gré de fluctuations climatiques et environnementales, parfois ils sont allés assez loin, enfin ils sont allés, disons qu'ils sont dispersés assez loin vers l'Est, et on a en particulier dans l'Altaï des sites où on a tantôt des Néandertaliens, tantôt un autre groupe qui est en fait le groupe frère des Néandertaliens en Asie, qu'on appelle les Denisoviens. Et donc là, il se passe un peu ce qui s'est passé avec notre espèce, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent, ils se croisent, ils s'hybrident de temps en temps.
Ludovic Slimak, vous insistez beaucoup dans votre livre sur le fait que Néandertal soit une espèce disparue, éteinte aujourd'hui, alors même que, effectivement, il y a 10 ans maintenant, 12 ans, l'ADN nous a révélé que nous portions en nous un petit peu de gènes néandertaliens, ce qui pourrait nous laisser dire aussi que finalement Néandertal vit encore en nous aujourd'hui. Vous faites une critique au fond de cette idée de la dilution génétique de Néandertal dans nos propres gènes. Donc vous êtes vraiment contre cette idée de faire croire qu'il existe encore?
Oui, et je crois que c'est une déviation, c'est-à-dire que comme on s'est tellement interrogé sur cette disparition, on a tellement voulu qu'il n'ait pas disparu et qu'il soit toujours là, qu'on s'est dit, mais on a tous quelque chose en nous de Néandertal. Oui et non, c'est-à-dire que les futages génétiques, c'est un propre d'à peu près tous les mammifères, et ça nous dit pas grand-chose dans le règne du vivant. La définition de l'espèce, c'est plus aujourd'hui la question de l'interfécondité. Et donc ces populations-là, c'est comme si il faut essayer de donner des images. Alors la plus proche que j'ai pu trouver, que j'expose dans le livre, c'est que imaginons que soudain sur Terre tous les loups disparaissent. Eh bien, quelle que soit la raison de cette disparition, le fait que tous les loups disparaissent, c'est pas parce que le caniche de mamie a l'essentiel du génome de Néandertal que les loups n'ont pas disparu. Et heureusement pour mamie d'ailleurs. Donc voilà, c'est à peu près ça. Je pense que il faut faire attention. Il n'y a pas eu de dilution. Il y a eu des fuitages génétiques qui sont ce qu'ils sont, qui nous donnent des informations d'ailleurs sur les interactions potentielles entre ces populations, mais ils ne disent absolument pas que Néandertal ne s'est pas éteint. C'est une humanité pleine et entière, et c'est aussi une humanité entièrement disparue.
Jean-Jacques Hublin, ça vous agace aussi ce raccourci finalement quand on dit Néandertal vit encore à travers nos gènes?
Complètement.
C'est complètement faux de le dire comme ça?
Bah oui, c'est un remplacement avec des fuites. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, si vous mettez 1,9% de lait dans votre café noir, je pense pas que ça va faire un café au lait. C'est un petit peu ça la situation. Donc, les sapiens, quand ils sont arrivés en Europe, d'ailleurs déjà d'abord au Proche-Orient, puis en Europe, s'ils se sont occasionnellement hybridés avec des populations locales, ils ont récupéré, mais alors une partie, microscopique de leur génome, qui pouvait présenter un avantage sélectif, en particulier sur le plan immunitaire, des choses comme ça. Maintenant, ce qu'on sait surtout, c'est que deux choses très importantes. Parce que d'abord, la sélection naturelle a fait le ménage et que la plus grande partie de l'ADN néandertalien qui était présent chez ces hybrides, dont on pense d'ailleurs que certains avaient une fécondité assez réduite, a été nettoyée, si je peux dire. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que moi, je crois que toutes les discussions sur la disparition de Néandertal, c'est un marronnier de la presse scientifique. Hein.
Ouais.
Mais c'est un peu vain parce que, en fait, Sapiens, il n'a pas remplacé que Néandertal. Il a remplacé tout le monde. Et donc,
espèce invasive dont vous allez parler.
Voilà,
demain.
Donc c'est un petit peu idiot de vouloir trouver des causes locales, je sais pas quoi, les volcans, le climat, les rayons cosmiques, à la disparition de tel ou tel groupe. En fait, le facteur commun, c'est Sapiens. Et donc, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut chercher des causes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans la façon d'exploiter l'environnement, d'interagir avec d'autres espèces, par exemple, chez Sapiens, qui explique ce caractère invasif de l'espèce.
Ouais, mais comme
qui est d'ailleurs un caractère récent, hein, parce que si je peux dire, ça s'est assez bien passé pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Les Sapiens, ils étaient là-bas en Afrique, les Néandertaliens, ils étaient en Europe ou en Asie centrale, et il y a une sorte d'équilibre éco-géographique qui s'est maintenu très 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 longtemps.
Bon, en tout cas, je vais compléter le marronnier dans quelques minutes, parce que j'aurai quand même des questions à vous poser sur la disparition de Néandertal, Ludovic Slimak, d'autant que vous abordez quand même ce sujet dans votre ouvrage. Donc on y revient dans quelques minutes avec également les questions des auditeurs.
France Inter. La Terre au carré.
14h30, on passe au vert avec vous Camille Cronier.
Et on reparle dans l'actualité des néonicotinoïdes surnommés les tueurs d'abeilles et de plein d'autres, hein, puisqu'il s'agit d'un insecticide. On en reparle parce que les betteraviers devraient pouvoir les utiliser à nouveau cette année. Ils vont semer à partir du mois de mars. Un projet d'arrêté a été mis en ligne par le gouvernement au réveillon de Noël pour autoriser provisoirement des semences traitées avec l'insecticide. C'est la fameuse carte magique dérogation qui avait fait polémique au moment de son vote en octobre 2020, puisque l'interdiction totale des néonicotinoïdes avait été votée, elle, 2 ans avant, défendue par la députée à l'époque, Barbara Pompili, qui disait ça.
Moi, ce que je veux, c'est que cette loi, à la fin, porte cette interdiction et la porte pour qu'elle soit appliquée. Ce que je redoute le plus, parce que je connais trop ces sujets-là, ça fait trop longtemps que je me bats pour ces sujets-là, c'est de prendre des décisions qui seraient très jolies sur le papier, mais qui ne seraient pas applicables.
Voilà, ça fait toujours du bien, une petite archive. Et j'en ai une autre. Voici les explications de Barbara Pompili au moment de la polémique, tout juste nommée ministre de la Transition écologique.
C'est toujours très désagréable de devoir commencer, quand on arrive à un ministère, à défaire ce qu'on a fait. Donc, en fait, j'ai été très en colère. Et après, j'ai regardé les choses en face et je me suis dit, bon, c'est un contretemps. Les néonicotinoïdes sont quasiment tous interdits. On a juste un problème sur les betteraves. Donc, on résout le problème pour les betteraves et les néonicotinoïdes seront complètement interdits très vite. Voilà.
C'est quand même pas super pour votre crédibilité.
Ma crédibilité, elle tient dans le fait que, grâce à moi, aujourd'hui, 90% des néonicotinoïdes sont interdits en France.
Oui. Votre loi, c'était l'interdiction totale, donc il y a 10% qui aujourd'hui vont être autorisés.
Oui, et si je m'y étais pas mis, aujourd'hui, les néonicotinoïdes ne seraient pas interdits dans notre pays. Donc, il faut remettre les choses à leur place. Oui. Ici, je suis là pour que ça bouge.
Oui, mais ça, c'est ce que disent tous les ministres, pardon. Hein.
Eh ben, on verra. Eh ben, vous verrez au résultat.
Et le résultat aujourd'hui, c'est donc une probable deuxième application de la dérogation qui est valable de toute façon sur le papier jusqu'en juillet 2023, hein, donc ils sont dans les clous. Au motif cette année que l'hiver s'annonce doux et donc propice au développement des pucerons qui transmettent la jaunisse aux betteraves. Les néonicotinoïdes permettent d'éliminer les pucerons. Mais c'est absurde pour Julie Pêcheur, porte-parole de l'association Pollinis, dont la pétition contre l'insecticide avait récolté 1 million de signatures.
On va de nouveau déverser sur 400 000 hectares de betteraves cette année des graines qui sont enrobées par des néonicotinoïdes, qu'il y ait ou non une attaque sur les cultures. Donc c'est un peu comme si on se mettait sous antibiotiques toute l'année en fait.
Mais les professionnels touchés par des pertes de rendement de presque 30% en 2020 se défendent. Écoutez ce qu'expliquait il y a quelques jours à France Bleu Picardie Dominique Fievé, le président de la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves de la Somme.
Moi je crois que c'était encore une fois une dérogation vitale pour la filière et pour sa pérennité. Hein.
Voilà, plus de 45 000 emplois, hein, je le rappelle, dans le secteur. La France est le premier producteur de sucre en Europe et il insiste sur le côté temporaire de l'utilisation de ces NNI, comme il dit.
C'est pas une fin en soi, hein. Ces NNI, c'est d'avoir le temps de trouver des solutions pour remplacer ces insecticides dans nos semences de betteraves.
Sauf qu'il n'y a pas besoin de 3 ans pour cela, parce que les solutions existent déjà, dit le docteur Jean-Marc Bonmatin, chimiste et toxicologue au CNRS à Orléans, spécialiste des néonicotinoïdes.
Depuis 2017, nous avons publié, nous les chercheurs, scientifiques, de grosses revues de la littérature qui démontrent qu'il y a des alternatives aux néonicotinoïdes.
Et l'an dernier, en 2021, ils en ont même publié spécifiquement un sur la betterave.
Vous tapez ANSES, alternative aux néonicotinoïdes betterave, le rapport arrive. Il y a 4 alternatives opérationnelles, déjà tout de suite, et il y en a une dizaine à développer et à fignoler, si vous voulez. Donc, c'est un déni manifeste de l'information scientifique et du travail des chercheurs.
4 solutions immédiatement utilisables et 18 précisément disponibles dans un délai de 2 à 3 ans, écrit le rapport, parce que de toute façon, et ça a aussi été démontré, d'où la loi d'ailleurs d'interdiction totale, les néonicotinoïdes sont une catastrophe environnementale. Julie Pêcheur de Polynis le rappelle.
80% de la dose au minimum va se répandre dans l'environnement et contaminer durablement les sols, les eaux et affecter tous les lieux de vie et les sources alimentaires des insectes et de la biodiversité en général.
Et c'est aussi une catastrophe sanitaire pour nous.
Vous voulez que je vous fasse la liste des maladies qui sont associées aux néonicotinoïdes ? Cancer, développement du neurodéveloppement chez les fœtus, les bébés et chez le jeune enfant, problème thyroïdien, problème de testicules, cancer bien sûr, foie, et le dernier en date qu'on vient de publier, c'est des problèmes rénaux qui font des morts.
Le conseil de surveillance chargé d'évaluer notamment les conséquences des dérogations a donné le 21 décembre dernier un avis favorable. C'est en ligne avec la consultation publique qui est accessible jusqu'à dimanche le 16 janvier. L'association Polynis ne la voit de toute façon cette consultation que comme une façon de légitimer la dérogation. Donc elle n'y participera pas et se fait peu d'illusions pour la suite.
Elles étaient prévues pour 2023. On ne s'attendait absolument pas à ce que ça s'arrête au bout d'un an. On sera même très surpris si ça s'arrête réellement en 2023.
La loi, en tout cas, prévoit qu'aucune dérogation ne soit possible à partir de 2024. Donc l'avenir dira, si ce n'était, pour reprendre la formulation de Barbara Pompili, qu'une décision très jolie sur le papier.
Et c'est Camille Passauvert à réécouter sur franceinter.fr.
Jean-Jacques Hublin, est-ce que vous avez l'impression, parfois on entendait Jean-Marc Bonmatin qui disait parfois il y a le déni de la science, est-ce que vous avez l'impression, y compris de la part des autorités, vous qui êtes chercheur, de ne pas être écouté par les autorités ?
Alors, en ce qui me concerne, j'ai surtout l'impression de pas être écouté par les autorités quand je demande des crédits de recherche. C'est le problème principal que j'ai.
Le message est passé, en tout cas. Ouais.
Oui, bien sûr. Il y a un discours, mais après, la science est une chose. La politique, c'en est une autre, et la politique, c'est la gestion de la société qui doit prendre en compte la science, bien sûr. Mais pas que.
Et la science de Néandertal, c'est celle qui nous intéresse cet après-midi. On revient vers vous avec des questions sur franceinter.fr. Forevermore. C'était Curtis Harding sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard. Sur France Inter.
La forme du visage des Néandertaliens est très différente de celle de l'homme moderne. Et il y a beaucoup de débats sur la manière dont ce visage a évolué et pourquoi. On considère aujourd'hui que c'est certainement lié à l'adaptation au froid. On sait que le climat dans lequel Néandertal a évolué était bien plus froid et plus sec que celui de l'Europe actuelle. Et c'est probablement l'une des raisons, en particulier pour la zone du nez, car le nez est très large et proéminent, avec un très grand volume interne. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'il fonctionne un peu comme un radiateur qui réchauffe et humidifie l'air inhalé. C'est d'ailleurs vrai pour tous les anciens humains. Tous avaient un appareil nasal bien plus large que celui des hommes modernes. Mais les Néandertaliens font mieux encore. Avec leur nez, ils inspirent de très grandes quantités d'air. Et ils ont aussi de très grands poumons, un thorax imposant, car ils devaient oxygéner leur sang. Ils brûlaient beaucoup d'énergie pour lutter contre le froid.
La voix de Chris Stringer, qui est paléoanthropologue en Angleterre, extrait d'un documentaire à la rencontre de Néandertal de Rob Hope et Pascal Cuisseau en 2019. Et la question, justement, de la morphologie de Néandertal, ça ressort dans les questions, Camille.
Oui, une question de Lafont qui nous demande en fait les différences, Ludovic Slimak, entre Homo sapiens et Néandertal.
Alors, ce qu'évoquait Chris Stringer, c'est au niveau de la mécanique, et ça, c'est des éléments qui sont tout à fait extérieurs et qui sont pas ma spécialité, qui serait plutôt la spécialité de Jean-Jacques Hublin. Par contre, moi, je vais m'intéresser à ce qui se passe sous les apparences et dans la coquille, c'est-à-dire parce que une morphologie osseuse ne vous dira jamais comment est-ce que une population humaine a pu concevoir le monde, a pu penser, a pu s'inscrire dans le monde. Et donc moi, les interrogations que je mène dans ma recherche et que je synthétise dans Néandertal nu, c'est pourrait se résumer à cette question. A-t-il existé ? On essaie généralement de savoir s'ils sont comme nous ou différents de nous. Je pense que cette question n'est pas la bonne. Et la bonne question serait, a-t-il existé une éthologie néandertalienne comme il existe une éthologie, c'est la science du comportement, comme il existe une éthologie du chien qui n'est pas l'éthologie du chat. Et donc ça, cette question-là est posée sous cette forme-là, on l'a pas vraiment explorée. Et c'est cette question-là qui est certainement la plus pertinente. A-t-il existé une éthologie néandertalienne?
On va en parler avec vous. Hein. Avec les silex, par exemple, hein, qui donnent des informations intéressantes. Vous le racontez aussi dans cette grotte de Mandrin. Alors, Jean-Jacques Hublin, pour répondre à la question de notre auditeur, portrait physique rapide, allez, portrait robot, en tout cas de...
C'est-à-dire que bon, l'histoire de Néandertal qui, avec un chapeau dans le métro, passerait inaperçue, c'est une grosse blague. Parce que j'ai un collègue américain qui disait si Cro-Magnon rentrait dans votre rame de métro, vous changeriez de wagon. Et si c'était Néandertal, vous changeriez de train.
On aurait peur.
C'est-à-dire, quelle taille
Non, mais c'est-à-dire que... on peut discuter de la face. C'est des gens avec une grande robustesse, un format corporel différent d'une autre, un tronc très large. Enfin, on peut rentrer dans toutes sortes de détails comme ça.
Mais pardon, est-ce qu'on a une idée des dimensions quand même juste
Oui, bien sûr. On a tout à fait. On a, la reconstitution physique des Néandertaliens, ça pose aucun problème.
Quelle dimension, Jean-Jacques? On veut le savoir.
Non, mais on a des tailles très différentes d'individus, évidemment, comme chez les hommes actuels. Mais ce sont des tailles qui sont des tailles comparables.
On ne nous dira pas. Hein.
Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y avait des Néandertaliens d'un mètre 70, il y en avait des un peu plus grands, il y en avait des plus petits. Il y avait une différence de taille entre hommes et femmes. Bon, tout ça, c'est un peu défoncé des portes ouvertes.
En 300 000 ans, ça évolue.
Après, ça évolue ça évolue régionalement, ça évolue dans le temps. Ce que je voudrais dire, surtout, qui est plus important, c'est que en fait, ce qui est surprenant avec ces hominides, disons, des derniers quelques centaines de milliers d'années, c'est que justement, il y a une divergence sur le plan morphologique de l'aspect qui est extrêmement rapide. C'est-à-dire que si vous montrez à des enfants de cours préparatoire un crâne de Néandertal et un crâne d'Homo sapiens, ils voient les différences, ils vous expliquent les différences anatomiques, ce que Stringer a expliqué sur la face. Moi, j'ai vu des gamins de 8 ans m'expliquer ça. Et ça, on n'a pas ça dans d'autres groupes de primates. Et ça pose la question des mécanismes qui sont là derrière, et puis aussi des interactions entre les groupes. Hein. La face en particulier, les hommes, ils sont très sensibles à la face, hein, surtout quand il s'agit de se reproduire. Hein, j'en parlerai un petit peu demain. Donc ça pose la question de savoir comment étaient perçus, par exemple, les Néandertals par des sapiens arrivant d'Afrique, en Europe.
Déjà, on avait même parlé de l'importance du sourcil avec vous, Jean-Jacques.
Oui, bien sûr.
Donc il y a tout. Mal, visiblement, qu'il y a quelques c'est un autre débat.
Alors, l'interaction, reproductive, si je peux dire, reproductrice, ça, je pense, c'est un peu une tarte à la crème. Hein, c'est-à-dire, on n'est pas obligé de s'aimer pour se reproduire. Hein, et donc, ça nous dit, dans le fond, pas grand-chose sur la nature des relations entre ces groupes.
Ouais. Ludovic Slimak, vous abordez cet aspect également. Hein, vous dites qu'il n'y a pas eu de love story. Hein, il faut arrêter aussi ce récit autour de Néandertal et Homo sapiens. D'abord, un mot, pourquoi vous appelez Néandertal la créature? Et j'ai même vu des vidéos où vous employez le terme d'homme sauvage.
Oui. Parce qu'il est, il est urgent de se détacher de nos projections et de ne plus le contraindre et limiter ces populations à nous-mêmes. Et le seul moyen, comme aujourd'hui, effectivement, il n'y a qu'une humanité, donc ça demande une gymnastique qu'on ne sait pas faire. Aujourd'hui, il n'y a qu'une humanité sur Terre. Et imaginer qu'on puisse avoir été humain plein et entier sans avoir été ce que nous sommes, c'est quelque chose qu'on ne sait pas imaginer. Et donc le seul moyen de s'extraire de ce piège-là, c'est de le dénommer la créature et donc de l'externaliser de notre conception de l'humanité. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas humain, ça veut dire que la définition de l'humain n'est pas la bonne, parce que la définition actuelle de l'humain est faite sur le vivant, et ces populations-là, parmi plein d'autres populations, Jean-Jacques parlait de Denis Chauvin, on pourrait parler de Flores ou Blisonensis, il y a un florilège de populations remontant dans le temps, et effectivement, elles représentent l'humanité.
Tout ça, ça va exactement à l'encontre de ce qu'on essaye de nous faire croire au sujet de Néandertal, hein, vous le disiez encore tout à l'heure, en humanisant à mort, justement, la figure de Néandertal. Hein.
Oui, c'est un vrai piège. Et alors, il y a un moyen pour quelqu'un qui est non pas confronté à ses ossements et à ses différences. La bonne taille, c'est quand les deux pieds touchent bien par terre, hein, pour répondre aussi à la question. Et donc, pour quelqu'un qui va essayer de se confronter à ce qu'est la créature, à ce qu'est cette créature et ses créatures passées, il a légué derrière lui des millions d'objets dans lesquels on peut voir tous ses artisanats, ses traditions, ses manières de faire, ses manières d'être au monde, ses territoires. Et quand on se penche là-dessus, il y a quelque chose d'extrêmement choquant et qui saute immédiatement aux yeux. Quand on met sur la table des silex, si on regarde 100 silex réalisés par Homo sapiens, et ça marche même pour des très vieux silex que j'ai pu voir en Afrique qui peuvent avoir plus de 100 000 ans, quand on a regardé les 100 premiers silex, les 10 000 derrière sont les mêmes. Et quand on regarde un silex néandertalien, après en avoir vu des millions, eh bien, il faut bien le regarder, parce que plus aucun autre silex que vous allez rechercher dans cette couche archéologique ne sera le même. Et ça nous interpelle profondément, parce que les activités au quotidien étaient extrêmement limitées, c'était toujours les mêmes familles d'activités, mais toujours avec des objets différents.
Ouais, vous dites les silex, hein, c'est la mémoire des gestes et des comportements de Néandertal, donc c'est ultra précieux pour essayer de définir cette humanité. Il y a beaucoup de questions, donc on va essayer de faire des réponses plus courtes pour les auditeurs.
Justement, sur Facebook, Jérôme demande quid de la culture de Néandertal ?
Alors, Ludovic Slimak, c'est important parce que c'est une façon de le définir aussi. Hein.
Oui, ben en fait, il n'y a pas une culture de Néandertal. Néandertal, est en tant qu'humanité très différente, mais pleine et entière, a eu de nombreuses cultures différentes et s'est exprimé des traditions et des savoir-faire qui se sont transmis de toute évidence sur de longues générations Mais si vous prenez par exemple des traditions de la vallée du Rhône, qu'on peut trouver dans des niveaux de la grotte Mandrin, d'abord d'un niveau à l'autre, sur une échelle à peu près, on voit sur les 15 derniers millénaires des populations néandertaliennes, tous les sauts de 2 à 3 000 ans, on a un changement culturel avec vraiment des traditions qui sont extrêmement distinctes d'un niveau à l'autre. Et après, si vous prenez ces groupes de la vallée du Rhône et puis que vous alliez par exemple en Bourgogne ou en Aquitaine et vous retrouvez pas vos petits et vous voyez pas la même chose. Et pendant longtemps, quand je regardais les silex du sud-ouest de la France, j'avais l'impression d'un exotisme total, moi qui travaille énormément sur la vallée du Rhône.
Jean-Jacques Hublin, sur l'art néandertalien, alors qu'est-ce qu'on peut en dire?
L'art néandertalien.
Ben oui, mais c'est important, non? C'est une façon de définir aussi une humanité, une société humaine.
Oui.
Hein.
Moi, j'ai une certaine prudence sur le sujet. Pourquoi ? Parce que, En fait, très souvent, dans tous ces débats, justement, pour essayer de définir ou de décrire Néandertal ou d'autres groupes d'hominines, on parle assez facilement de la présence ou de l'absence de certains traits qui sont des traits qu'on va trouver chez l'homme actuel. Or, l'art, c'en est un. Et donc, voilà, si un jour, dans un site, on trouve un bout d'os avec quatre coups de silex dessus qui forment un motif géométrique, on va dire « Ah, voilà, Néandertal pratiquait l'art ». Et c'est un petit peu ça qui s'est produit de façon un peu répétitive, c'est-à-dire que des manifestations un peu anecdotiques, et d'ailleurs dont on ne connaît pas vraiment la signification, et qu'on ne trouve pas que chez Néandertal, mais même chez des formes plus anciennes, on les a immédiatement assimilées à des représentations symboliques et chargées de significations très comparables à ce que des hommes actuels ou récents pourraient investir à l'intérieur.
Mais c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent.
Mais c'est pas vrai. On a fouillé des centaines de sites en Europe. On a des millions d'objets et dans ces millions d'objets, on a une poignée littéralement d'objets dont certains pensent que c'est une manifestation de cet art. Alors, juste pour vous donner une comparaison, dans un seul site marocain qui se trouve à côté de Rabat, qui date d'il y a à peu près 100 000 ans, donc qui date à peu près de la même époque que Néandertal en Europe, on a trouvé 320 coquillages percés, certains colorés, qui sont manifestement des objets qui ont servi de parure, d'objets d'échange. Ça, dans le monde néandertal, on ne l'a pas. Et donc, ce qui est intéressant, ce n'est pas la présence ou l'absence de ci ou de ça, c'est la fréquence, l'importance, l'intensité de ces comportements. Pourquoi vous savez qu'un rond rouge avec un trait blanc au milieu, ça veut dire sens interdit ? Pas parce que vous en avez vu une fois, mais parce que vous l'avez vu partout. Ça, on l'a dans le monde des sapiens du Paléolithique supérieur. On ne l'a pas dans le monde des Néandertals.
Ludovic Slimak, très rapidement, l'exemple des coquillages avec des trous, justement, il y a eu une très mauvaise interprétation en fait, là-dessus, parce qu'en fait, vous racontez que c'est des crabes qu'on fait ces trous dans les coquillages.
Alors, j'ai fait tout un travail de déconstruction dans Néandertal nu sur cette question de l'art néandertalien. Et alors là, on n'a plus que quelques minutes.
Ah, on a 30 secondes même pour tout
allez,
vous dire.
On a 30 secondes. Alors si je voulais vous dire, il n'y a pas d'art néandertalien, mais par contre, on va le retrouver dans les artisanats. Et quand je vous disais que chaque objet est unique, il y a une créativité absolument troublante et affolante dans la réalisation des artisanats. Et si aujourd'hui la définition de l'humanité ça avait été effectivement la liberté d'être et la créativité, peut-être que cette humanité-là, Néandertal, cette humanité disparue, a été plus humaine que nous ne le serons jamais, nous qui sommes définis par notre standardisation, notre normalisation, nos manières répétées d'être au monde, que l'on voit dans les silex, même qui ont 100 000 ans chez Sapiens, c'est que l'on voit jamais chez Néandertal.
Allez, on va parler de cette grotte Mandrin, où vous avez justement repéré cette rencontre de deux groupes humains, Homo Sapiens et Néandertal, sur un même territoire, et ça c'est extrêmement rare.
Yeah.
la voix d'Amy Winehouse pour parler de Néandertal cet après-midi avec Jean-Jacques Hublin et en duplex de France Bleu Berne Bigorre à Pau, Ludovic Slimak qui publie Néandertal nu chez Odile Jacob. Vous dites dans ce livre, Ludovic Slimak, que finalement il n'y a presque aucun site archéologique qui peut attester avec certitude de la rencontre d'Homo sapiens et de Néandertal. Pourtant on sait qu'ils se sont croisés, puisque nous portons ces gènes-là, mais du point de vue de l'archéologie c'est dur de le prouver.
On n'a pas le lieu, le moment de la rencontre, et ça pose un grand problème. C'est-à-dire, on a un problème de résolution. Effectivement, quand on fait une date au carbone 14, on est à plus ou moins 1000 ans. Donc l'exemple que je donne dans Néandertal nu, c'est qu'à plus ou moins 1000 ans, hier soir, je dînais avec Charlemagne à ma gauche et Jules César à ma droite. Ouais. Et donc, quand on est à plus ou moins, c'est la résolution du carbone, quand on est à plus ou moins 1000 ans, on n'a pas le moment de l'interaction. On peut trouver des sites dans lesquels on a des silex de réalisés par Néandertal, qui sont récents, et puis on a des silex abandonnés par des Homo sapiens qui sont très anciens, mais est-ce que les deux, et qui vont avoir les mêmes dates au carbone 14, mais est-ce que les deux se sont jamais vraiment rencontrés? Ben, on peut jamais le dire et on le voit jamais, et la génétique nous donne pas un espace-temps d'une rencontre. Elle nous dit qu'il y a eu des interactions, des fuitages, mais on sait pas où ça se passe.
Alors, et donc, qu'est-ce qu'on répond, oui, Ludovic Slimak, à deux questions d'auditeurs qui nous demandent les Homo sapiens et les Néandertaliens se sont-ils fait la guerre, ou Néandertal a-t-il pu être exterminé par Sapiens ?
Il faudrait répondre que c'est des événements singuliers, ça c'est de l'histoire. Savoir s'il y a eu une confrontation ou savoir s'il y a eu un génocide, ça va être une histoire particulière dans un lieu donné. Donc on n'a pas d'évidence comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, parce qu'en fait, nos fenêtres de recherche sont extrêmement limitées. On va fouiller peut-être 100 mètres carrés, et peut-être qu'à 2 mètres à côté, ben, on aurait eu d'autres évidences.
On laissera au lecteur le découvrir. En tout cas, dans cette grotte Mandrin, donc de la vallée du Rhône que vous étudiez, il y a ces dépôts de suie qui représentent une véritable mémoire du feu, et qui racontent, hein, justement, Ludovic Slimak, cette rencontre entre les deux groupes humains, Néandertal et Homo sapiens. Jean-Jacques Hublin, vous parlez, ce sera l'objet de votre conférence demain au Collège de France, d'une espèce invasive, en parlant d'Homo sapiens. Est-ce que c'est cette espèce invasive qui a mis fin justement au règne de Néandertal en Europe ?
Oui, alors maintenant, c'est un événement qui s'est étendu sur une grande durée, hein. C'est-à-dire les plus anciens sapiens dans l'est de l'Europe, dans les moyennes latitudes, ils sont vers 46 000 ans. Et il y a 40 000 ans, c'est 6 000 ans après. Hein. Il y a encore des Néandertaliens, pour sûr, datés, des sites néandertaliens dans l'ouest de l'Europe. Et on sait que les premiers arrivants sapiens, les pionniers, si je peux dire, bah dans le fond, ils sont pas allés jusqu'au bout, ils sont pas allés jusqu'à l'extrémité ouest de l'Europe. Donc on voit que c'est un remplacement qui a été très compliqué, avec des interactions de toutes sortes, y compris celles qui viennent d'être mentionnées. Mais en tout cas, c'est une espèce invasive qui avait un petit avantage, si je peux dire, mais pas un avantage écrasant. Dans le fond, les Néandertaliens, bah, ils étaient très bien adaptés à leur environnement. Alors, ils représentaient un modèle qui était un vrai succès adaptatif, et ils ont tenu le coup très longtemps.
Une dernière question d'Alex sur Twitter. Ont-ils vraiment tous disparu, les Néandertaliens, Jean-Jacques Hublin ?
Ah ! Peut-être pas. Lorsque le génome de Néandertal a été publié par mes collègues généticiens à Leipzig, on a quand même reçu pas mal de lettres, en particulier de femmes, qui ont écrit en disant « Je pense que mon mari est un homme de Néandertal. Venez l'étudier. »
Ludovic Slimak confirme que cette espèce a bel et bien disparu et qu'elle est éteinte aujourd'hui. C'est dans ce livre Néandertal nu aux éditions Odile Jacob. Et donc demain, 18h, pour ceux qui veulent aller au Collège de France, votre leçon inaugurale, Jean-Jacques Hublin, sur Homo sapiens, une espèce invasive. Mais c'est à suivre également sur Internet en direct sur le site du Collège de France. Merci à tous les deux.